Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis ravie de vous retrouver pour Objectif Startup sur Cowork la radio. Vous le savez maintenant, l'émission dédiée, l'émission consacrée aux startups. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Mathieu Burin, cofondateur et président d'EMEA. Bonjour.
Exactement. Bonjour Bérénice.
Ça va ?
Ouais, super.
Très bien. Alors déjà, présentez-nous EMEA. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, EMEA, le constat sur lequel on a lancé la boîte, parce qu'on avait un constat, c'est aujourd'hui faire des travaux, c'est très compliqué.
Oui.
En fait, on ne sait jamais trop à qui s'adresser, on ne sait pas combien ça nous coûte.
Donc, quand on est particulier.
Quand on est particulier, exactement. Et en fait, en tant que moi, Mathieu, fondateur, mais moi, consommateur, en fait, juste, on fait nos travaux comme il y a 50 ans. Et donc, en fait, c'est hyper complexe, très anxiogène, assez chronophage. Et en fait, on se dit juste, OK, quel est le bon bout et comment adresser ces travaux qui, finalement, quand ils sont bien réalisés, le chemin pour y arriver, en fait, est compliqué. Mais la destination est assez incroyable puisque ça vous permet d'avoir une belle maison, du confort, de l'efficacité.
C'est vrai qu'on est content une fois que c'est fini.
Exactement. Et donc, on se dit, nous, comment on peut rendre la partie réalisation, exécution beaucoup plus agréable. Donc, ça, c'est juste le pitch. Il y a une stat que j'aime bien donner, c'est on a un Français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux aujourd'hui.
Ouais.
Parce qu'il y a des problèmes de délai, il y a des problèmes de malfaçon, il y a des problèmes de prix. Et donc, tout ça fait que c'est très anxiogène et ça a pas du tout évolué depuis plus de 50 ans. Donc ça, c'est le constat. Donc nous, la promesse et la vision, c'est de dire, OK, comment ce marché, forcément, il va évoluer. Donc comment on crée un acteur, donc EMEA, un studio d'architecture et de rénovation, qui va prendre le particulier par la main pour vraiment l'accompagner sur toutes les étapes du projet de rénovation. Donc depuis la phase conception, un archi intérieur, comment je restructure mon habitation, comment je pense mon chez-moi de façon sur mesure, à la carte, en fonction de ce que j'ai besoin, comment je mets tous les interlocuteurs, si j'ai besoin d'un bureau d'études, si j'ai besoin d'une partie légale, si j'ai besoin d'une partie administrative, tous ces gens-là, ils sont chez EMEA et donc le but c'est que je suis vraiment packagé all in one et j'ai tout sur une seule et même plateforme. Après on vous aide à trouver des entrepreneurs qui sont de qualité et on fait le suivi de chantier. En option, en fonction de ce que vous avez besoin. Et le but, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'à la fin, puisque c'est jusqu'à la finition.
C'est clé en main, oui, c'est ça.
C'est clé en main et c'est je te prends de A à Z, je t'accompagne et je fais que ça se passe bien. Et en fait, il y aura des aléas, mais nous, on est là pour réenchanter et en tout cas pour vraiment vous accompagner et faire que ça se passe bien.
Et alors, aujourd'hui, qui sont vos clients? Quel est le profil?
Alors, aujourd'hui, donc EMEA, la boîte, elle a 5 ans d'ancienneté, un peu plus, mais bientôt 6. On est une grosse cinquantaine de collaborateurs. On va doubler nos équipes d'ici la fin d'année prochaine.
D'accord.
Et donc, on est présent en région parisienne, région lyonnaise et région bordelaise. Le but, c'est d'être présent dans les 5 à 10 plus grandes villes de France. Donc, quelle est la cible? Cible plutôt CSP+, urbain/périurbain et qui est sur un enjeu de rénovation. L'enjeu, c'est comment je fais pour que ça se passe bien et que j'aille jusqu'au bout et avec un vrai enjeu d'accompagnement. Vous trouverez toujours moins cher ailleurs. Un mec qui n'est pas assuré, qui fait ça au black, et sur lequel vous n'avez aucune garantie que ça se finisse. Nous, le but, c'est de dire on a un prix juste, prix du marché, et parce qu'on a 2 à 3 fois plus de services et de garanties pour que ça se passe bien. Donc, il y a des archis qui sont là pour vraiment bien structurer le projet, des entrepreneurs de qualité, du suivi et tout un tas de garanties.
D'accord. Et alors, les gens qui font appel à vous, c'est plutôt pour une résidence principale, pour des investissements?
Alors, c'est plutôt résidence principale. On a à peu près moitié-moitié entre appartement et maison.
Ouais.
Mais c'est plutôt principal. Panier moyen entre 40 et 50 000 euros.
D'accord.
Donc on commence à 10-15 000 euros parce qu'on a les sociétés qui sont plutôt des entreprises tout corps d'État qui travaillent avec nos archis, qui sont plutôt structurées. Donc panier moyen quand même suffisamment conséquent, donc vous ne faites pas ça tous les 4 matins.
Ouais.
Et zone sur laquelle zone urbaine assez dense, donc en fait on vise les 5, 10, 15 plus grandes villes de France.
Et donc là vous disiez donc Paris, Lyon, ouais. Bordeaux, les deux prochaines c'est quelle ville du coup? Enfin ce serait, si vous avez à nous le dire.
Ouais, hein. Non, on a le droit et on est en septembre, donc il y a plein d'enjeux sur la fin d'année. Nantes, Toulouse, région PACA et Lille, pour ne citer qu'elles.
Ok. Comment ça a été réfléchi, ces villes, en fonction des investissements? Enfin,
ouais, prix moyen de l'immobilier, ouais. La population. On parlait tout à l'heure des maisons secondaires. Il y a plein de Parisiens qui vont à Bordeaux, à Nantes, etc. Ouais. Donc le but, c'est on a commencé à créer une empreinte et on est... on a une bonne place en termes de leadership sur région parisienne. Le but, c'est qu'on soit capable d'augmenter sur tous les autres sujets en termes de positionnement. Et donc, le but, c'est de dire prix moyen, les enjeux, pénurie d'entrepreneurs. Et donc, ouais. Quelle est la vraie valeur ajoutée des maires pour vous accompagner et vous prendre par la main pour les travaux.
Il y a des villes où il y a très peu d'entrepreneurs ?
On n'ira jamais dans la Creuse, par exemple, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ouais. Et en fait, vous attendez déjà 6 à 12 mois pour avoir le copain du cousin qui est recommandé. Donc, en fait, ça ne sert strictement à rien.
Ouais. Et ça, vous décidez. Donc, vous êtes deux cofondateurs ?
Alors, on est deux cofondateurs. On a été créé en 2015. Il y avait Arnaud, donc Arnaud Kleinpeter, qui était la partie produit techno avec qui on s'est associé. Et Yann Depoix, notre directeur général, nous a rejoint il y a 3 ans maintenant. Donc, en fait, on a un trio de 3. Et donc, de toute façon, ces trucs-là se décident avec notre comité exécutif. Et donc, c'est en fonction des besoins, de la demande et de nos opportunités qu'on voit.
Et comment ça s'est fait, vous trois ? Vous vous connaissiez avant, dans le cadre professionnel,
amical ? Pas du tout, c'était les deux historiques, j'appellerais comme ça. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait une fibre et en fait, on était persuadés que ce marché, il allait changer. Et le constat, enfin je le redonne, mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'était en 2015, mais en fait, il est quasiment toujours autant vrai aujourd'hui. Vous regardez l'écosystème des travaux, aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui permette vraiment de se dire il y a une plateforme, une entreprise qui va prendre le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ce marché, il est très diffus. Il y a un énorme taux d'insatisfaction et la productivité, c'est la pire au monde avec l'agriculture.
On avait vu, on en a parlé, une étude. Alors, je ne sais plus qui l'avait faite, mais 79% des Français ont peur. C'était vous,
ouais,
d'ailleurs.
Oui, avec OpinionWay.
Exactement, avec OpinionWay, la peur des travaux est présente chez 79% des personnes qui veulent faire un investissement immobilier.
Exactement, en RP et résidence secondaire.
Exactement.
Ouais, parce qu'en fait,
c'est marquant, hein, 79% quand même.
En fait, c'est 4 sur 5. Mais juste parce que pragmatiquement, en fait, c'est une expertise. Et en fait, on a oublié que l'architecture, il faut plus de 5 ans d'études pour faire un job d'archi.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu sous-évalué. En fait, tout le monde se rêve chef de chantier. Sauf qu'en fait, un, c'est métier. Deux, c'est du temps. C'est énormément de temps. Et trois, c'est une discipline, une rigueur qui s'invente pas, ou en tout cas, qui met beaucoup de temps à s'apprendre. Donc, le but, c'est de dire, en fait, c'est 80%, en fait, 79% qui ont besoin d'être accompagnés. Il y avait notre stat avec ça. C'était plus de 50% des gens voulaient avoir un chef de chantier ou en tout cas quelqu'un qui l'accompagnait dans les travaux. Parce que juste, c'est compliqué. Donc, le constat, si je reviens au constat initial, c'est ce secteur, il est diffus, il est pas organisé, il est très peu productif et il y a un énorme taux d'insatisfaction. Il va y avoir forcément, d'une façon ou d'une autre, un acteur ou deux ou trois acteurs qui vont être capables d'avoir une vraie proposition de valeur qui sert à la fois les consommateurs, donc les particuliers, mais aussi les entrepreneurs. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Mais en fait, si on veut gagner sur ce marché-là, il faut travailler avec les bons entrepreneurs. Et donc, moi, la question qu'on me posait souvent, c'est mais en fait, comment tu t'assures à ce que tu bosses avec les bons entrepreneurs? Parce que les bons entrepreneurs, ils sont jamais dispo.
Oui, c'est vrai.
Et donc, en fait, moi, je réponds, en fait, ces gens-là, moi, je suis un architecte et un architecte qui trouve toujours les bons entrepreneurs parce qu'en fait, il a des clients qui sont sérieux, il a bien structuré les projets, donc il n'y a pas trop de perte de temps ni côté consommateur, ni côté entrepreneur, et ça, tout le monde apprécie. Et puis, il y a le côté aussi, il y a des garanties en plus. Alors, l'architecte, nous, on est passé un niveau au-dessus parce qu'on va avoir une garantie AXA. Les travaux sont garantis jusqu'à 500 000 euros et quoi qu'il arrive, on est capable d'assurer que le chantier ira jusqu'à sa fin. Donc ça, c'est un truc qui est unique en France. Et puis, on a une autre brique qui s'appelle le Club Pro. C'est la gamme complète de services qu'on met à destination de nos entrepreneurs pour les accompagner, pour les rendre plus productifs, pour les tirer vers le haut. Parce que vraiment, on a une vision de si on veut bosser avec les meilleurs entrepreneurs, il faut qu'on soit capable de leur donner des services auxquels ils ne pourraient pas avoir accès tout seuls. Donc, les deux gros services que on propose.
Ça sert à l'un et à l'autre.
Exactement. Et c'est le modèle très win-win. C'est pour que la boîte, elle crée de la valeur pour à la fois ces entreprises. Parce que nous, on a deux clients. On a le consommateur qui fait ses travaux, mais qui fondamentalement aura besoin de faire ses travaux. Et on a l'entrepreneur, donc l'artisan, qui a une capacité de faire des travaux, mais qui peut choisir de bosser avec nous en direct ou avec un architecte. Et donc l'enjeu, c'est comment on attire les meilleurs entrepreneurs et on les fidélise. Et donc pour ça, on a deux gros leviers. Premier levier, c'est toute la partie IT techno sur comment on leur donne et on leur met accès à des outils. Il y a le logiciel de devis, le logiciel de facturation. Bientôt, il y aura le logiciel de planning. En fait, tout le CRM et la gestion de centre d'entreprise, elle est en ligne de façon hyper facile avec les outils 2.0 ou 3.0 2021. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun acteur sur le marché qui fait ça. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a le deuxième point qui est une brique de centrale d'achat. C'est comme EMEA, aujourd'hui, on fait un peu plus de 300 chantiers tous les mois. En parallèle, en fait, on a une capacité
d'aller sur toute la France.
Juste sur les 3 villes où on est présent. Donc, en fait, rien du tout.
Et Lyon, Bordeaux, Paris, du coup.
Exactement.
Donc 300 chantiers.
On a 300 maisons et appartements complètes en rénovation complète aujourd'hui.
D'accord.
Donc ça, c'est les
stats. C'est un beau chiffre.
Et en tout cas, on a très envie qu'on le multiplie par 2, 3 chaque année. Mais en tout cas, on a déjà un volume d'achat qui nous permet d'aller discuter avec des grands fournisseurs industriels. Et je vais citer Tollens, je vais citer Schneider, je vais citer Atlantic. Et en fait, ces gens-là, on leur dit, ben voilà, vous avez une pool d'entrepreneurs avec lesquels vous ne bossez pas. Comment on fait pour que la part de marché sur tous les chantiers EMEA et avec tous les entrepreneurs avec lesquels on bosse, ben, elle augmente drastiquement. Et du coup, là, on a une capacité d'avoir accès à des meilleurs prix, moins cher, avec toute une brique techno qui permet d'être plus efficace. Et donc là, du coup, on rebook et ça fait beaucoup plus sens pour les entrepreneurs pour bosser avec nous.
Et pour les clients, les particuliers, comment vous les trouvez? Ils viennent vers vous? Comment se faire connaître?
Alors ça, c'est...
bouche à oreille, j'imagine.
Il y a du bouche à oreille. On a une forte présence en ligne avec du SEO, du SEA. Oui. On va avoir pas mal de partenariats avec les agences immobilières.
D'accord.
Et les banques et les courtiers, on a un peu plus de 150.
Qui proposent vos services en
exactement.
À chaque fois.
En fait, on résout un problème qui est vous faites un achat immobilier, mais en fait, il y a 79% des gens qui ont peur de faire des achats immobiliers, en tout cas avec des travaux. Ou en tout cas, ça leur fait. C'est pas aussi réjouissant que ça devrait l'être. Et en fait, par exemple, le Crédit Agricole Île-de-France, sur tous les prêts immobiliers, ils proposent l'accompagnement travaux et maires.
D'accord.
Donc, et en fait, c'est un moyen. Qu'est-ce que nous, on crée comme valeur pour l'agent immo? Le fait est que quand vous voulez vous projeter sur un achat, il va falloir connaître le prix des travaux. Et donc, à part attendre 2 ou 3 semaines que l'entrepreneur se déplace, fasse un devis, etc., etc., tout ça, nous, on va le raccourcir avec des outils digitaux.
Et encore, faut-il trouver le bon entrepreneur, hein, parce que quand on en fait plusieurs, ça rallonge le temps. Quand on est seul, il y a aussi ce problème-là.
Hein. Exactement. En fait, c'est de l'effet de réseau. C'est quand chez EMEA, en fonction de ce que vous avez besoin sur votre projet, de façon sur mesure, je suis capable de vous mettre en relation avec personne A, personne B ou personne. Parce qu'en fait, il est spécifique à ce que vous avez besoin. Et en fait, je ne suis pas la recommandation du cousin qui a fait ses travaux, mais en fait, il n'a pas du tout les mêmes goûts que vous. Et en fait, il n'a pas la même spécialité. Et ça, c'est une vraie force, c'est que c'est le à la carte.
D'accord.
C'est comme un architecte, mais en version plus digitale, plus équipée et sur un scope beaucoup plus global et totalement verticalisé.
Au niveau des clients, est-ce que y a des différences hommes-femmes? Est-ce que vous avez des femmes qui viennent vous trouver ou très peu?
Alors, on a à peu près tout.
Bon, quand c'est un couple, en général, c'est plus l'homme qui gère
pas
ça,
du
pas du tout.
Pas du tout.
Parce qu'il y a quand même, enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour l'avoir vécu. En tant que femme, faire des travaux, par exemple, pour un investissement locatif, etc., on se fait un petit peu, alors on s'adresse à nous, enfin, on s'adresse pas à nous comme aux hommes, je trouve personnellement. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué et on en a discuté dans d'autres émissions sur ce plateau et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort quand même. C'est pas évident de trouver des entrepreneurs. Donc j'imagine que peut-être les femmes seront plus rassurées en faisant appel à vous.
C'est un super point. Je pense que je marche un peu sur des œufs en disant ça, mais en fait, je pense que le secteur de l'immobilier est très masculin.
Ouais.
Par contre, sur la partie travaux et la partie décoration, in fine, c'est la femme qui décide.
Ah, les travaux aussi. Décoration, je peux comprendre, mais travaux...
Ouais, parce que assez rapidement, en fait, on va sur... Quand je redistribue une pièce, in fine, oui, on est... L'action et le moyen, c'est les travaux, mais le résultat, c'est j'ai une belle maison qui est organisée de la façon que je veux.
Oui.
Donc, en fait, ça devient un peu quasiment... Enfin, moi, je le mets ça dans le côté intérieur designer, donc décoration et design. Et donc, in fine, et alors là, c'est très quantitatif, c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est 80% le choix final, c'est la femme qui le fait.
D'accord.
En tout cas, dans les couples.
Ah oui, c'est ce que vous voyez, vous.
C'est 5 ans, 6 ans, on voit ce qui se passe. Mais c'est vrai que. Et du coup, ça diffère un peu du côté immobilier très classique.
D'accord. Comment, du coup, là, vous disiez pas mal sur Internet, vous faites connaître, etc. Comment ça a commencé, en fait, au début? Est-ce que ça a été compliqué? Avant d'avoir tous ces partenariats, comment ça s'est passé au début?
En fait, ça se construit au fur et à mesure, parce qu'au début, on commence avec un chantier qui est un pote de pote, et puis après, on commence à avoir 5 chantiers en parallèle, après, on commence à en avoir 20.
Ouais,
et après,
ça fait boule de neige, en fait.
Exactement. En fait, on structure la boîte, on a levé un peu d'argent aussi, quand même, avec Daphne et Brega, notamment.
C'était en quelle année, ça?
On a levé au total un peu plus de 7-8 millions avec Daphne, c'était en 2019, et Brega, c'était en 2017.
Donc, 4 ans après votre création.
Un an après et 3 ans après.
2017, oui.
Et donc là, ça fait 2 ans. Après, il s'est passé le Covid. Mais finalement, aujourd'hui, là, ça fait un trimestre sur lequel on est rentable. Mais ce n'est pas une vocation en soi d'être rentable ou pas. C'est de dire comment on investit pour avoir le meilleur service en France. Ça, c'est l'ambition. Et après, ben, si on n'a pas le moyen, si on n'a pas besoin de, on va quand même doubler la taille des équipes. Donc en général, les gens doublent la taille des équipes quand ils annoncent des grosses levées de fonds. Ben, nous, on a la capacité d'exécuter cette boîte-là pour l'instant sans levée de fonds. C'est pas pour ça qu'on le fera pas. Mais en tout cas, on se donne les moyens de nos ambitions. Et aujourd'hui, l'argent n'est pas un moyen limitant. Donc en fait, on va réinvestir. Et on a plein d'ambitions là-dessus. Donc
Et quoi, par exemple, quels sont les objectifs à court, moyen terme? Là, pour l'année prochaine, par exemple, donc, développer donc, les villes, là, vous disiez, avant la fin de l'année.
Ouverture des villes, ça, c'est un gros point. Développement et création de la marque, enfin, beaucoup plus. On a changé de nom, ça s'appelait Travolib, on était EMEA. Donc, EMEA, c'est associé au service, le côté A d'architecture, de home, de maison. Et il y a un accent sur le M, donc le M de matériaux. Donc en fait, on va vachement travailler sur le côté matériaux. Et donc tout le côté prescription qui est avec ça. Donc c'est typiquement, est-ce que vous voulez du noir, est-ce que vous voulez du blanc, c'est quoi les trucs tendance, c'est quoi les couleurs.
Notre studio est tendance.
Le studio est élégant et sobre. Mais donc ouais, avoir ce point de vue là, et en fait on va travailler typiquement sur la côté prescription de matériaux. Comment on va faire on a envie de bosser sur un Tinder des matériaux. Donc c'est swipe left, swipe right, j'aime pas, et en fait au fur et à mesure je rentre dans quel est le style que j'aime. Donc le côté vraiment archi, quoi, un book d'archi, sauf qu'il est beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus gamifié. Et en fait je rentre sur quel est le détail sur le parquet, est-ce que je veux du point de Hongrie, quel style de coupe, etc. On peut aller très très loin. Et donc c'est tout le job, comment en fait j'accompagne et ce choix des matériaux qui est assez painful parce qu'en fait il y a tellement de matériaux, il y a tellement de possibilités qui existent.
En fait on ne le sait même pas quand on commence des travaux, quand on n'est pas dans le milieu, quoi.
C'est impossible. Et en fait il y en a plein et même moi j'en découvre tous les jours, alors que en fait ça fait quand même 6 ans que je baigne dedans et j'y pense à peu près 7 jours sur 7. Donc en fait il y a plein de matériaux, et donc le but c'est comment je suis capable de prendre par la main, et en fait avec des questions intelligentes bien posées, de prendre par la main mon client en lui disant voilà ce que t'as besoin, et en fait je te fais un entonnoir, un funnel pour dire voilà où t'as envie d'arriver et tu le sais pas forcément encore. Et donc ça, plus on va avoir de chantier, plus on va avoir de photos, de réalisation, plus on va être capable d'affiner ce qu'on aime. Et donc là on en revient sur le côté très sur mesure. C'est les matériaux deviennent sur mesure, l'expérience devient sur mesure. Et in fine, un truc où un architecte, il montre 10 fois le même book, ben là, en fait, on va multiplier ce côté, j'ai pas 10 books, mais j'en ai 100. Et donc, ça va devenir encore plus puissant sur plus je vais avoir de photos, plus ce que j'aime. Et ça devient un truc qui est du niveau Instagram ou Pinterest, mais tout sur une seule même plateforme avec une logique de réflexion. Et en fonction de ce que j'aime, je vais pousser.
En fonction du client, quoi.
Exactement. Et après, il y a un enjeu de budget, ça, on sait déjà faire, etc.
Et alors, c'était dans cette optique-là, le changement de nom, Travolib EMEA.
Exactement. En fait, on avait commencé par Travolib. C'était un nom qui était plutôt mass market. Et on, pour être très honnête, on ne savait pas du tout quel était le nom qu'on voulait. Et à l'époque, il y avait.
Un nom que vous avez choisi un peu comme ça.
Ça a été décidé à peu près en 4 minutes et demie.
Ah oui.
Et le logo a été fait sur Paint.
D'accord.
Donc c'est ça la vraie histoire. Et en fait, le but, c'est de dire ok, de toute façon, on se posera la question plus tard, on ne sait pas où on en est. Donc ça a été fait en 2015. Et donc on a changé le nom 4 ans après, quand même.
Ouais.
Donc on l'a quand même gardé. Et donc le but de mien, il y a deux vocations. C'était traduire le côté panel et palette beaucoup plus large de services. Puisque EMEA, c'est beaucoup plus archi, un peu plus déco. Il a été beaucoup plus travaillé sur le bien-être, le confort, etc. Le côté noble des matières. Mmh. Le M, il est en bronze, etc. VS, un Travolib, où c'était un logo d'une maison qui souriait, quoi.
Ouais, c'était un peu plus...
Simple.
Est-ce que vous êtes, du coup, partisan du il vaut mieux... Enfin, le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce qu'on dit aux fondateurs de... Enfin, c'est ce que beaucoup disent.
Au début, ouais.
Au début, ouais. Oui. Trop pinailler sur certains détails. Et parfois, on en oublie l'essentiel. Là, c'est ce que vous avez fait, en fait.
Il faut aller vite. Et en fait, fondamentalement,
on fait un logo,
c'est pas ça.
Ouais.
Et c'est pas ça qui va déterminer le succès. Et là où, par contre, on commence, nous, à être un enjeu... Enfin, là, 5 ou 6 ans après, avec du recul, on se dit... Il y a l'autre revers de la médaille là-dessus, c'est le diable est dans les détails.
Ouais.
Et donc, en fait, il y a un moment où il va falloir prendre ce niveau de détail, et chaque petit détail, la somme d'excellence et à chacun des personnes qui sont dans la boîte et de tout ce que l'on fait qu'on a une belle boîte et fait que les consommateurs sont contents de l'utiliser.
Et alors, c'est à quel moment ça ? Qu'on passe du mieux et de l'ennemi du bien au diable est dans les détails ?
Je pense que c'est propre à chacune des boîtes, mais il y a un truc sujet très start-up qui est le fameux product market fit.
Ouais.
C'est je réponds à un besoin et mes utilisateurs sont contents de ma version 1 de ce que j'ai fait. Et donc là, du coup, on peut surinvestir sur des autres sujets de produits, de marques, d'expérience.
Pour agrandir la cible.
Pour en fait aller tirer tout le monde vers le haut. Et c'est ça l'ambition, c'est moi j'adore, c'est un truc où, que j'adore, c'est quand il y a 5 ans justement qu'Arnaud, on était dans notre chambre d'étudiant, et en fait on faisait des trucs, 2 ans après il y avait Saint-Gobain qui nous copiait, on trouvait ça génial. Et maintenant on se dit ok, en fait on les avait mis dans le rétroviseur, là en fait tout le monde est en train de réaccélérer, bah, la question c'est comment nous on repasse une vitesse au-dessus en remettant tout le monde dans le rétro, et en fait on va se donner les moyens d'aller, donner les moyens de nos ambitions pour aller encore plus loin et pour créer une expérience qui est juste normale et ce qu'on attend. Et il y a un truc dont on discute souvent avec l'équipe, c'est aujourd'hui, on trouve ça normal de commander le soir sur Amazon et que le lendemain, ce soit chez nous. En fait, on devrait trouver ça normal qu'on commande des travaux et qu'en fait, ils soient livrés dans les temps avec le bon niveau de qualité et au prix qui a été défini. Mmh. En fait, c'est pas du tout le cas aujourd'hui.
C'est vrai que c'est rarement à l'heure, les travaux.
Bah, c'est pas à l'heure.
Il y a souvent du retard, quoi.
Bah, on en revient sur, il y a un Français sur deux qui est pas satisfait. Ouais. Et ce constat-là, il est partagé partout dans le monde. Et si on décortique tous les
c'est
problèmes...
C'est pas propre à la France.
Non, en fait, c'est pareil. Enfin, aux États-Unis, c'est pareil.
Ah ouais.
Y en a sur les pays du Nord. Enfin, et on a des concurrents, enfin, des équivalents en Inde. Enfin, ce truc-là, il est partout sur des pays développés, pas développés. C'est juste qu'il y a souvent, il y a beaucoup d'argent en jeu. Enfin, typiquement, on est prêt à donner 20, 30, 50, 100 000 euros à un entrepreneur. Et l'entrepreneur, il n'a pas fait forcément d'études, il n'a pas le bac. Par contre, il bosse très, très bien. Et donc, il a un peu de l'or dans les mains. Mais en fait, cet entrepreneur, on donne autant d'argent à quelqu'un. En fait, jamais on donnerait autant d'argent à des gens qui sont pas, je dirais, éduqués. Je mets des grosses parenthèses parce que j'aime pas du tout ce terme-là. Mais en tout cas, à des gens dont c'est pas le métier et en tout cas qui sont pas bons gestionnaires. Mmh. Donc la question, c'est comment EMEA, en partenariat avec nos entrepreneurs, en fait, on les permet de grandir sur la partie administrative, gestion, productivité, devis, tous les trucs qui les font chier. Mais en fait, sur lequel ils deviennent vraiment bons. Et en fait, c'est ça qui fait la différence.
C'est ça ce qui est important. Au final.
Ils savent faire. Ouais. Les entrepreneurs qui font ça. Et en fait, ils ont. Enfin, moi, quand je parle, j'adore ça. Et je pense à ça. Mais en fait, les gens qui font les travaux, ils aiment bien. Et c'est un job de passionné.
Bah, on vous sent passionné. Hein.
Ouais, exactement.
Et comment c'est venu alors là, il y a 5 ans, vous parliez avec, avec Yann. Vous finissiez vos
avec
études.
Avec Arnaud.
Arnaud, pardon. Vous finissiez vos études.
Un peu plus, ça faisait 2 ans que je bossais. J'avais bossé chez Bouygues Construction, donc ouais. J'avais fait mes armes dans les travaux et j'ai fait un tout petit passage chez EY aussi.
Alors, vous avez fait quoi comme école, une école?
Moi, j'ai fait l'école spéciale des travaux publics.
D'accord.
Et donc, l'histoire qui est rigolote derrière ça, c'est. En fait, donc j'ai grandi, j'ai passé tous mes étés chez mon grand-père. Donc, mon père était hyper bricoleur et en fait, on a hérité d'une vieille bâtisse qui était une ferme où il y avait tout à refaire. Et donc, tous les étés, on y allait. Et donc, tous les étés, on mettait la main à la pâte pour bosser avec lui. Donc, il y avait tous les bons côtés de quand je crée ma maison, ce que j'aime, le côté confort, beau, etc. Et puis, il y avait tous les mauvais côtés de quand je fais appel à des entrepreneurs, ils sont jamais à l'heure, le prix, il n'y a aucune transparence, je ne sais pas ce que j'achète. Et c'était ça il y a quasiment 10-15 ans. Donc, en fait, Internet a quand même apporté un peu plus de transparence.
Oui, c'est vrai.
On est encore loin, mais quand même beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis capable de savoir les prix en tapant sur Google. Donc, ça, c'était le sujet. Donc, je me disais, waouh, en fait, il y a une capacité de faire un truc qui est assez magique et assez réjouissant. Donc, tu vois, créer le chez-soi de ses rêves et en tout cas le construire. Et en parallèle, il y a une exécution des projets par les entrepreneurs. Parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ont trop de chantiers, parce qu'ils sont pas gestionnaires, et qui fait que c'est en fait, c'est in fine, ça, c'était très souvent une catastrophe. Et donc moi, je me suis dit, waouh, en fait, je veux monter une boîte de rénovation. Donc l'histoire, c'est moi, je veux juste monter une boîte de rénovation. Et au fur et à mesure, j'ai grandi. La blague, c'était mon père me disait, bah, va faire ton école d'ingé, et puis après, tu monteras ta boîte de peinture. Et donc j'ai fait l'école spéciale des travaux publics à Paris pour pouvoir faire ma boîte de rénovation.
Donc vous avez écouté votre papa.
Oui et non, mais en tout cas, on va dire oui s'il écoute.
Et être entrepreneur, ça a toujours été quelque chose de...
Je sais pas. Ça a toujours été. Je veux d'ailleurs toujours vivre sans avoir de regrets. Et ouais. En fait, quand je me suis lancé, je me suis juste dit, ok, t'as 6 mois, 1 an devant toi. Voilà où il faut que tu arrives. Et à la limite, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins t'auras pas de regrets.
Donc vous étiez donné un temps,
ouais.
Quand même, pour réussir.
Exactement. Pas pour réussir, mais pour avoir les premiers indicateurs de il y avait un truc à faire.
D'accord.
Et donc je m'étais donné entre 6 mois et 1 an. D'ailleurs, de toute façon, c'était le. J'étais au RSA.
Ouais.
Je voulais pas demander d'argent. Enfin, peut-être historiquement, je fais un petit pas de côté. Mais donc quand j'ai lancé la boîte, j'avais 24 ans. Donc j'étais pas au chômage parce que quand on est j'ai eu le chômage 6 mois mais j'étais au RSA, mais quand on a que 24 ans on n'a pas le droit d'avoir le RSA, donc ça c'est la petite
D'accord.
histoire. Et donc en fait j'ai vécu avec 500 euros pendant 1 an et demi et c'était le deal, et j'étais à Paris donc je devais faire plein de trucs à côté, et donc je remercie tous mes profs, tous mes cours de maths particuliers qui m'ont aidé à ce moment là et en fait je voulais juste pas demander d'argent à mes parents parce, ouais. Parce que c'était mon choix et je voulais pas que je sois redevable d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Donc ça, c'était, je me débrouille. Et donc, je m'étais laissé un an, en fait, c'était mes économies, j'avais de l'argent. Je vais faire ça et on verra où ça nous mène. Et donc, je me suis juste dit comment je fais pour pas avoir de regrets. Et puis après, au fur et à mesure, enfin, l'ambition vient en grandissant et en apprenant. Et après, je me suis dit, ok, waouh, en fait, à chaque fois qu'on soulevait un truc, en fait, on se rendait compte que c'était immense, enfin, l'univers des possibles. Et je me dis encore aujourd'hui qu'on a fait 0,1% de ce qu'on veut faire pour cette boîte. Et c'est, franchement, c'est vraiment incroyable, hein, tout ce qu'il y a à faire.
Et Arnaud était dans la même optique que vous ?
Alors, je peux pas parler pour lui, parce que ça c'est très, c'est propre, c'est propre. En tout cas, on était très alignés et très d'accord sur le fait qu'il y allait avoir un, deux ou trois acteurs qui allaient prendre cette place qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, la question, c'est, bah, en fait, comment on fait pour que ce soit MR ?
Et lui aussi, s'était donné 6 mois, 1 an
Pour y aller. Moi, j'ai commencé 3-4 mois avant, donc on bossait le soir et le week-end ensemble. Et en fait, on a commencé vraiment officiellement en février 2016. Et en fait, on a levé en décembre 2016.
Et là, vous disiez juste avant que vous étiez chez Bouygues.
Ouais.
Vous avez démissionné, du coup, au début, vous commenciez à travailler sur votre temps libre.
Au début, je bossais soir et week-end, très tard le soir et le week-end. Mais en fait, ça commençait déjà à germer. En fait, quand on a, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est quand on commence déjà à se dire, waouh, en fait, je commence à me prendre dans le tourbillon de, je veux monter ma boîte. Et en fait, je suis très excité. En fait, il y a un moment où enfin, bosser pour quelqu'un ou bosser pour soi, c'est quand même pas du tout le même enjeu. Et la motivation pour aller sur son projet, elle est 10 fois plus grande. En fait, il y a un moment où j'avais des journées de 24, enfin, je dormais plus beaucoup et je faisais que bosser, quoi.
Ouais.
Mais en fait, c'est hyper excitant. Et moi, je remercie mes parents, l'éducation et tout ce qui me permet de faire ça. Parce qu'en fait, se lever pour être content d'aller bosser, je pense que c'est une chance incroyable.
Bien sûr.
Et c'est en fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre ce luxe-là. Et je pense que c'est un luxe. Et après, c'est un choix, parce qu'il y a plein de, enfin, le revers de la médaille, c'est qu'il y a plein d'enjeux. Enfin, on bosse beaucoup, mais en fait, si t'es passionné et que le truc est génial, c'est trop bien.
Vos parents sont entrepreneurs aussi ou pas du tout ?
Pas du tout. Moi, mes deux parents sont ingénieurs. Après, ma mère s'est occupée de nous, donc elle a arrêté. Après, elle a recommencé prof de maths.
D'accord.
Donc, en fait, et après, mon père s'est lancé à 40 ans. Il a sa boîte de consulting.
D'accord.
Donc, je sais pas d'où ça vient, ce côté prise de risque. Après, je suis aussi le dernier de la famille. Donc, peut-être que ça fait des trucs. Et je pense qu'il faut pas reproduire le schéma des frères et sœurs, etc.
Parce que pareil, les frères et sœurs sont pas du tout.
Mon frère est ingé, ma sœur est.
Famille d'ingé, en fait.
Non, en médecine, mais
en médecine.
Enfin, voilà.
D'accord. Et quand vous êtes arrivé chez Bouygues, vous vous êtes jamais dit c'est un beau groupe, j'aimerais faire carrière dedans
En fait, je pense que c'est un super groupe. Et pour le coup, j'ai adoré. J'ai adoré ma période, un peu plus d'un an, un an et demi chez Bouygues au total. J'ai adoré ça, mais en fait, c'était juste pas fait pour moi, quoi. Et ça rejoint vachement ce que nous, dans les recrutements, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est en fait, il faut jouer sur les forces de chacun. Et en fait, on ne faut pas faire rentrer un carré dans un rond, quoi. Et si la personne est super talentueuse et elle a envie de s'éclater dans un truc, en fait, faut la mettre au bon endroit avec le bon terreau pour qu'elle s'éclate. Sinon, une personne très talentueuse dans le mauvais environnement, ça va faire quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, finalement, le terrain, il est hyper sain.
Et chez Bouygues, c'était peut-être un trop gros groupe, du coup.
C'est un grand groupe. On est numéro XYZ. Donc en fait, c'est pas le même philo. Et puis, je suis ultra junior. Et puis j'ai toujours ce côté-là où en fait moi j'ai envie, enfin je suis très très curieux, donc je pose plein de questions et pourquoi on fait ça, pourquoi on n'améliore pas, et en fait on est dans la machine et en fait il y a pas le temps de s'améliorer. Et ça, c'est un truc moi qui est assez frustrant, enfin le côté innovant, amélioration, c'est un truc moi je me dis mais en fait pourquoi on le fait, on peut faire mieux, mais en fait c'est pas ton job de faire mieux, juste exécute. Et donc moi j'avais besoin de
cette remise en question, en fait
se poser la question, c'est there is a better way, quoi, comment on peut faire mieux. Et en fait dans tous les trucs, si on se pose la question, on peut toujours faire mieux. Mais il faut avoir l'envie, il faut avoir la motivation, il faut avoir la bande passante, et en tout cas, donc pour pouvoir le faire.
Et là, vous parlez du recrutement, là, de votre recrutement. C'est facile de recruter ?
Non, je pense que c'est le plus dur. C'est le plus dur, mais parce qu'en fait, recruter des gens, entre guillemets, aligner des gens, c'est pas très compliqué. Construire une dream team, ça, c'est compliqué.
Et recruter pour son bébé, j'imagine que c'est aussi plus compliqué, non ?
Bah, ça dépend le niveau d'exigence, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est dire. Chez Méa, on doit avoir le terreau pour que les gens y réussissent et qu'ils progressent et qu'ils prennent de l'épaisseur. Et donc, s'il se passe ça, indirectement, les gens vont avoir un impact sur la boîte. Voilà, moi, c'est le premier élément qui est les valeurs, les behaviors, la mission, aligner tout le monde, donner le bon niveau d'information. Ça, c'est le job pour moi des fondateurs. Le deuxième job, c'est en tout cas moi construire ma garde rapprochée et donc chacun des managers puisse avoir sa garde rapprochée. Et donc c'est comment je construis ma dream team. Et donc c'est avoir de la diversité, de la complémentarité, des gens bien meilleurs que soi. Ouais. Ne pas avoir peur de recruter des gens bien meilleurs. Prendre le temps, faire les feedbacks, être franc, être transparent, etc. Donc c'est un sacré job.
D'accord. Oui, c'est quelque chose que... Et vous aimez faire ça? Vous aimez recruter?
Ouais, je commence à... Enfin, en fait, j'ai compris que... Je pense que aimer, c'est pas le terme, mais je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, l'humain, c'est au cœur d'une boîte. En fait, c'est ça qu'on oublie, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes...
Dans c'est un peu bon l'ADN de la boîte.
Mais c'est le seul truc, en fait. C'est sûr. À chaque fois, moi, j'adore la citation. En fait, le seul truc, enfin, les deux choses qui n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise, c'est ses people et sa réputation. En fait, c'est tellement vrai.
Donc, c'est ultra important pour vous.
C'est le plus important. Et tous les entrepreneurs le disent, toutes les lectures le disent, c'est construis ton équipe et en fait, aligne-les, nourris-les, fais-les grandir, coach-les. Et en fait, il faut qu'ils soient fiers autant que toi. Et en fait, tu dois partager ton bébé. Et il y a un moment, c'est plus les fondateurs qui font le truc, c'est les N-1, comment ça devient la courroie de transmission de toute la vision. Et en fait, il faut que tout le monde soit dans le même bateau parce qu'en fait, tous les jours, il y a des challenges, c'est le roller coaster. Donc en fait, c'est ça qui est hyper passionnant, c'est quelles sont les bonnes étapes de la boîte et à quel moment je suis capable d'avancer, quelles sont les bonnes personnes. Il y a des personnes qui, sur le 0 à 20 people ou 20 à 50, sont bien meilleures. Et puis, à un moment, quand il faut structurer, là, on est en train de structurer la boîte pour faire le 50 à 200, ben, en fait, il ne faut plus forcément les mêmes personnes. Et donc, c'est quelle est la capacité aux personnes. Et donc, d'ailleurs, moi, le premier, à grandir à la même vitesse. Mmh. Ah ouais, j'ai que 30 ans, donc il faut que je me remette aussi toujours en question. Et donc tous ces sujets-là, c'est comment je construis, en tout cas, comment je construis une équipe et comment je suis le coach de cette équipe-là.
Très bien. Pour vous retrouver, le site internet
Emea.com, H-E-M-E-A.com.
Vous êtes sur tous les réseaux, de toute façon,
oui.
Emea, on tape et on vous trouve.
Et LinkedIn, etc. Oui.
Parfait. Merci beaucoup, Mathieu Burin. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Emea. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.